Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Excellent réveil à tous. Il est 7h40 sur RMC. Il faut trouver au moins 25 millions d'euros d'ici demain pour sauver l'entreprise française Brandt. Les salariés se mobilisent. Mais vous aussi, Sébastien Martin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le ministre délégué chargé de l'industrie. Est-ce que l'État est prêt à mettre au pot pour sauver Brandt?
Oui, d'ailleurs, je l'ai dit. Je me suis rendu sur place hier matin à Orléans, rencontrer les salariés, rencontrer les élus. Et effectivement, l'État est prêt à accompagner le projet. J'ai annoncé un soutien à hauteur de 5 millions d'euros, ce qui aussi a déclenché un soutien de la métropole. Et je tiens vraiment à remercier son président Serge Grouard à hauteur de 5 millions d'euros. Et puis également la région. François Bonnot a annoncé également un soutien à peu près à la même hauteur. Donc on est déjà à peu près à 15.
Donc là, vous en êtes à combien là ?
On est déjà à peu près à 15 millions d'euros
qui sont mobilisés.
Et ben il faut encore maintenant.
24 heures pour trouver 10 millions.
Je profite de ma présence sur votre antenne pour dire aux banques qu'il faut qu'elles jouent le jeu. Et dire aux banques qu'il faut qu'elles fassent un peu transpirer leur règlement, parce que je sais qu'en 24 heures, c'est pas facile de trouver comme ça, de prendre des engagements pour accompagner un projet. Mais derrière, il y a quand même une entreprise qui représente 700 salariés aujourd'hui, des marques qui sont partout chez chacune des Françaises et des Français, et pas que les Françaises et les Français. Et surtout, il y a des savoir-faire que moi j'ai vu hier, on m'a fait la démonstration de ce qu'on savait faire là-bas, des technologies qu'on utilisait. C'est pas du tout une entreprise du passé, bien au contraire. Et donc je crois que je profite de votre antenne pour dire que s'il y a des gens qui veulent sauver l'industrie française, il y a encore 24 heures pour le faire, et d'être un peu patriote,
alors,
ça ferait pas de mal.
Je suis très touchée que vous pensiez que sur RMC, les banquiers vont tout à fait tout changer et trouver 10 millions. Je suis quand même un tout petit peu surprise que vous, ministre de l'Industrie, ça se passe comme ça en les prenant à partie sur une antenne de médias.
Non, mais il y a eu une réunion hier.
Ça veut quand même dire que les banquiers aujourd'hui ne jouent pas le jeu. Vous êtes
réunion.
Obligé de le dire publiquement.
Je dis aujourd'hui qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et que si on utilise les
Pourquoi on n'a pas beaucoup de temps, je rappelle.
Parce que demain matin, il faut que le dossier aille au tribunal.
Le tribunal de commerce de Nanterre va donc décider du sort de Brandt.
C'est
et
ça.
Il faut que le dossier soit ficelé.
Il faut que le dossier soit ficelé, qu'on ait des engagements à la hauteur de ce que sont capables de faire les collectivités et les pouvoirs publics. Et ben, il faut aussi que les investisseurs privés, que les banquiers répondent à cet appel. Parce que derrière vous, c'est l'image de cette usine. Moi, j'y étais hier. Il y a vraiment des gens qui sont attachés à un savoir-faire. Il y a vraiment des marques. Enfin, je veux dire, Brandt, c'est aussi De Dietrich. Tout le monde connaît ces marques-là. Et je pense que si à Noël, on a envie de faire quelque chose pour l'industrie française, il serait peut-être temps de se bouger.
En gros, vous dites même quasiment qu'il faut acheter des Brandt pour les mettre sous le sapin dans les cadeaux de Noël.
Je dis juste
relançons de manière patriotique Brandt.
Je dis juste que ce qui a été fait, par exemple, avec Duralex, exactement dans la même région, parce que Duralex était aussi dans la région d'Orléans. Aujourd'hui, c'est ce que cherche à faire et un investisseur et les salariés de Brandt, c'est-à-dire une scope, exactement ce qui a été fait pour Duralex. Et aujourd'hui, regardez, Duralex est reparti. Alors peut-être
Duralex
qu'on peut faire la même chose.
Duralex est reparti avec parfois des moments difficiles, mais avec aussi le public au rendez-vous.
Exactement.
Duralex, les salariés Duralex viennent de lever 19 millions d'euros de promesses d'investissement de particuliers, hein,
oui.
De tout un chacun, des Français qui ont décidé de mettre une part de leurs économies dans Duralex. Le contexte, il est quand même difficile pour ce type d'entreprise. Et puis l'industrie qui globalement souffre, je voudrais encore vous interroger sur ce dernier chiffre que l'on vient d'obtenir, moins 0,3% en novembre sur un an pour l'industrie automobile. Stellantis qui va encore réduire fortement sa production en France d'ici 2028, moins 11% en 3 ans. Est-ce qu'on est quand même au bout d'un cycle ?
Écoutez, la situation sur l'automobile, ça fait maintenant depuis 2019 qu'elle est difficile. Depuis 2019, on est passé d'un peu plus de 2 millions d'immatriculations, 2,2 millions à 1,7 million d'immatriculations aujourd'hui. D'ailleurs, je réunis toute la filière en sortant de votre studio en fin de matinée. Il y a eu plusieurs effets. D'abord, les prix des automobiles ont énormément augmenté juste après la crise Covid. Ça a été lié notamment au problème de semi-conducteurs, à une montée en gamme. Voilà, aujourd'hui, les choses sont en train de bouger aussi sur l'automobile. On travaille sur le petit véhicule électrique notamment. Je crois qu'il y a des évolutions
à
voir.
Ça peut rebondir.
Ça peut rebondir, bien évidemment. Le marché de l'automobile, il n'est pas condamné. Bien évidemment que ça peut rebondir. D'ailleurs, au mois d'octobre, au mois d'octobre. Là, les chiffres de novembre, c'est une quasi-stabilité. Au mois d'octobre, le marché des immatriculations avait augmenté de presque 3% en France. Donc, il y a aussi sur le véhicule électrique, et moi j'en ai marre qu'on dise n'importe quoi sur le véhicule électrique, parce que le véhicule électrique, finalement, il a aussi tiré les ventes d'automobiles en France, puisque nous sommes arrivés au mois de novembre à un véhicule sur quatre vendu qui est un véhicule électrique. Je rappelle qu'en 2019, c'était 1,9%. Donc la marge de progression, elle est encore là pour arriver à 100% un jour. Mais aujourd'hui, on est à 25%. On est passé de quasiment zéro
à 25%. À 100%, les 100%, c'est censé quand même être demain. C'est-à-dire, c'est censé être en 2035, hein, si on écoute l'Union européenne. Donc on n'y est pas encore quand même, franchement.
Non, on
en termes, je veux dire, de d'achat des particuliers, ils sont pas non plus au rendez-vous. On a voulu encore mettre la charrue avant les bœufs.
Il y a encore des freins. D'abord, 2035, c'est pas demain. On est en 2025. Il reste encore 10 ans. C'est vrai que c'est un changement de technologie. Et un changement de technologie, ça s'accompagne, ça prend du temps. Donc d'ailleurs, à ce sujet, la France dit une chose très simple. 2035, il faudra sans doute l'assouplir, mais il faut privilégier l'industrie européenne.
Et je voudrais qu'on accueille Vincent, qui nous appelle de Neuville-sur-Saône, dans la métropole de Lyon. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur, vous travaillez dans l'industrie spécialiste du repoussage, qui est donc une méthode, je crois, ancestrale de déformation des métaux. Et vous vouliez témoigner sur la difficulté aujourd'hui de l'industrie en France. Vous le vivez au quotidien.
C'est ça. Nous sommes du coup, c'est une vieille technique qui existe depuis très longtemps. Et nous sommes un acteur majeur du coup dans l'aéronautique et la défense.
Ouais.
Et on remarque au fur et à mesure des années que il y a de plus en plus de difficultés, de moins en moins d'acteurs qui pensent avec cette technologie, parce que c'est quelque chose qui est oublié, qui n'est plus appris à l'école.
Vous avez peur que ça disparaisse?
Ça, c'est en train de disparaître, c'est sûr, parce que même que ce soit pour les gens qui pensent à fabriquer des pièces par repoussage, ils n'y pensent plus parce que on n'en parle plus à l'école dans le cadre des développements, mais aussi, surtout, dans le cadre de la formation pure de repousseurs, elle n'existe plus depuis plus de 20 ans.
Donc vous appelez à ce qu'on relance cette formation?
C'est ça, et c'est le cas dans tous les métiers, en fait, industriels purs, manuels, ou avec un savoir-faire exceptionnel, que ce soit dans les métiers simples, de l'usinage, de tout ça, on sait les fabriquer en commande numérique, mais on oublie vraiment la réalité de la réalisation.
Est-ce que la réindustrialisation, je vais poser la question tout de suite au ministre, est-ce que la réindustrialisation, ça passe pas aussi par ça? C'est-à-dire par le fait que la formation remette le paquet sur les métiers de l'industrie comme celui de Vincent?
Mais bien sûr, ce que dit Vincent est très vrai, c'est-à-dire que finalement, comme notre économie s'est tournée énormément vers les services et un peu moins vers l'industrie, les formations ont suivi le même mouvement. Et donc vous avez certaines formations qui ont disparu et pourtant dont on a besoin. Et Vincent travaille plutôt dans des secteurs qui en ce moment, que ce soit l'aéronautique ou l'armement, sont plutôt des secteurs qui sont en dynamique. Donc là, c'est pas forcément un problème de débouchés. C'est une question de compétences et de formation. Moi, je prône l'idée qu'il faut absolument que les formations se rapprochent beaucoup plus des territoires industriels. Les formations sont beaucoup plus concentrées dans les grandes villes, dans les métropoles, autour des
vous
métiers de service.
Ben,
bien sûr, on travaille dans ce qu'on appelle le programme territoire d'industrie. Il y a 164 territoires d'industrie à travers la France qui regroupent en général plusieurs intercommunalités. Un des sujets de travail, c'est le sujet des compétences. Et ça se fait certes avec l'État et avec l'éducation nationale, mais ça peut se faire aussi avec les organisations professionnelles. Il y a des CFA des métiers de l'industrie qui existent dans beaucoup de villes et qui sont soutenus dans le cadre de ce programme.
L'Assemblée nationale a voté la nationalisation d'ArcelorMittal. Vous en pensez quoi?
Moi, j'en pense qu'on peut aussi tout nationaliser et puis penser que ça va régler les problèmes de notre économie. Mais nationaliser ArcelorMittal France, c'est-à-dire que, en fait, vous prenez une entreprise, puis vous la coupez de son amont. C'est-à-dire, par exemple, le minerai qu'il va falloir mettre dans les forges pour pouvoir faire de l'acier. Puis vous la coupez de son aval, parce que le groupe ArcelorMittal, et ce qui est produit à Dunkerque, par exemple, une grosse partie de la production va dans les entreprises du groupe ArcelorMittal.
Quand vous regardez les Anglais, ils font ça pour British Steel?
Oui, je crois qu'ils perdent 700 000 livres par jour.
Donc pour vous, on peut pas le faire à perte comme ça.
Moi, je veux bien qu'on fasse finalement un cadeau à ArcelorMittal. Parce que si on nationalise ArcelorMittal, d'abord, un, on fait un énorme chèque de 6 ou 7 milliards d'euros pour acheter ArcelorMittal. Ensuite, c'est nous qui prenons les pertes que lui absorbe à l'intérieur de son groupe d'un peu plus de 300 millions d'euros chaque année. Et ensuite, bien évidemment, on se coupe du reste du groupe. Donc, on n'a plus l'amont pour mettre dans nos fourneaux et on n'a plus l'aval pour écouler notre acier. Donc, je trouve tout ça d'une logique absolument dingue où on a vu l'ERN et LFI se retrouvaient main dans la main pour un discours anti-économique et qui n'avait ni queue ni tête.
Merci beaucoup Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l'industrie. Vous mentionniez le RN. Notez que Marine Le Pen est mon invitée à 8h15 sur RMC et BFM TV. Merci aussi à Vincent. Vincent qui nous appelait depuis la métropole de Lyon et qui plaide pour la technique ancestrale du repoussage.